C'est l'heure des bonnes nouvelles sur Radio Alto.
L'enfant tombé du nid, de Régine Berthet, lu par Bernard.
C'était un gamin venu de nulle part. Il était arrivé un matin de septembre au début des années 50. On l'a vu sortir d'un vieil autocar sauré, sa toute petite valise dans une main, une grande enveloppe brune dans l'autre. Sa frimousse toute chiffonnée témoignait du chemin qu'il avait enduré dans cet antique véhicule à la cabine avancée. Il était tourneboulé par l'odeur tenace du gasoil et l'absence de suspension adéquate associée aux interminables lacets affrontés par la machine pour rejoindre le village de Saint-François-de-Sales. Le chauffeur l'avait débarqué en indiquant simplement qu'une responsable d'un quelconque service social lui avait confié l'enfant à la gare de Chambéry. Son histoire ne démarrait pas sous les meilleurs auspices. La religieuse qui l'accueillit à sa descente du car allait découvrir dans la grande enveloppe brune, outre son identité, son âge, ses origines, la mention « Présence du père en pointillé. Abandon progressif des capacités d'éducation de la mère entraînant son placement définitif dans nos services. » Les gens de l'aide sociale n'étaient pas dépourvus d'un certain sens de l'humour pour définir un père qui, s'il avait bien consenti son patronyme à l'enfant, n'avait fait que de brèves apparitions au cours des premières années du petit Julien. Les Charmilles, établissement dirigé par Sœur Anthelme, étaient aménagés dans le bâtiment de l'actuelle mairie. Julien, très impressionné par l'aspect austère de prime abord, marmonnait dans son menton. « Je ne veux pas y aller. Je suis sûr que derrière ces grandes portes cochères, on enferme les garçons désobéissants. » Dieu. Quelle enfance a-t-il vécu, se questionnait Sœur Anthelme en l'attendant. Ne te mets pas martel en tête, petit. Aux Charmilles, nous n'avons pas l'habitude de faire peur aux oiseaux tombés du nid qui nous sont confiés. Nous devrons te remplumer, et quand tu seras plus vigoureux, tu participeras joyeusement à la vie de notre communauté. L'arrivée de Julien au sein du massif des Bauges coïncidait avec l'explosion des couleurs flamboyantes qui accompagnent l'avènement de l'automne. Ce petit garçon, extirpé de la grisaille d'une banlieue, exception faite de son très bref passage à Chambéry, était rassuré par la générosité de la nature et des personnes qui l'accueillaient. En effet, l'installation de Julien dans son nouveau nid se déroule de la manière la plus bienveillante. À peine avait-il déposé son bagage qu'il suit les enfants chargés de lui faire visiter chaque recoin de la maison. Il est surtout impressionné par la cuisine qui s'ouvre directement sur la cour de récréation, au même niveau que les salles de classe. La cuisinière, une petite femme accorte au visage de pomme rainette fripée ne demandant qu'à être croquée, l'accueille par ces mots. Bienvenue dans la partie de la maison qui définit notre raison d'être. Ici, chacun met la main à la pâte. Voilà la meilleure façon d'apprécier le repas. La directrice et ses adjointes avaient pour précepte de responsabiliser les enfants, que ce soit pour leur apprendre à se nourrir, être attentifs en classe ou au cours de leurs activités en plein air. Elles étaient en cela dignes descendantes de Marie Micou, originaire de la Magne, fondatrice des Sœurs de l'Immaculée Conception, pour qui l'entraide n'était pas un vain mot. Désormais, la vie du petit Julien s'égrenait entre bonnes intentions et grandes découvertes. Au gré des saisons, ses journées alternaient entre les leçons et les menus tâches confiées par Jeannette, qui n'était pas seulement la reine des fourneaux, mais la bienveillante intendante de la maison. Acclimaté en un rien de temps au rythme de la maisonnée, le nouveau pensionnaire se découvre une véritable passion pour le jardin potager attenant à la cour de récréation. Quelle joie de voir poindre une tige puis se déployer de minuscules feuilles à l'endroit où il a enfoui une graine dans la terre meuble. Cette joie n'a d'égal que la fierté de dévorer les radis rebondis que toute la classe pourra récolter. Julien tente toujours d'arriver en premier pour fouiner le poulailler à la recherche des œufs d'or. Fierté de Jeannette. Les mimiques des lapins lui sont également une source d'émerveillement. Avec ses camarades, il a pour consigne de veiller à leur nourriture. Les problèmes surgissaient parfois alors qu'il découvrait un protégé dans la casserole. Mais les grandes personnes avaient tôt fait de trouver une explication convaincante. Très vite, son insouciance le projetait dans l'attente d'une nouvelle évasion. Pour aller loin, pensez-vous ? Nul besoin. Des potrons minés, notre Julien grimpe avec trois camarades dans la 2 chevaux fourgonnette AZ, récemment acquise par le foyer, à destination du village du Noyer. Village en miroir où le clocher de l'église s'obstinait à sonner en retard sur celui de Saint-François. Sœur Anthelme, émérite conductrice de la dite 2 chevaux, installe un panier d'œufs entre les pieds de Julien et, avec un clin d'œil, lui confie. Prends-en le plus grand soin. Nous devons les livrer au village. Les enfants se font une joie d'envahir l'épicerie fourre-tout de Madame Fernande, où les bocaux de toutes les couleurs attisent aussi bien leurs regards que leurs papilles. Ils salivent déjà, rien qu'en pensant aux coquillages à la fraise et aux sucres d'orge multicolores qu'ils pourront lécher sans vergogne. Puis, leur directrice satisfaite de ses emplettes, il s'arrête à la fruitière, acheter le lait et les fromages commandés par Jeannette. Glaner encore quelques clous destinés à de menus travaux, et la petite troupe reprend le chemin du bercail. Julien attendait surtout la visite hebdomadaire dans l'échoppe de Francis. En effet, ce dernier, outre ses fonctions de chauffeur de car, exerçait le métier de tourneur sur bois dans la commune, pas très loin des Charmilles. Julien aimait beaucoup ses visites, pendant lesquelles, sous la houlette attentive de Francis, il découvrirait de jour en jour l'amour du bois et ses propres aptitudes à le travailler. Il aurait bien échangé la fréquentation dominicale et sans concession de l'église voisine contre davantage d'heures intenses à l'écoute de son mentor. Il n'éprouvait aucun attrait pour l'édifice religieux, de style grec, avait expliqué Sœur Anthelme en atelier de dessin. Le pigeonnier attenant au mur d'enceinte qui jouxtait leur potager était bien plus beau à ses yeux d'enfant. Et puis toutes ces pierres tombales, adossées au mur comme une ronde macabre, lui filaient les jetons. Les histoires racontées par les grands en récré n'étaient pas étrangères. Son imagination débordante transformait le cérémonial liturgique en sacrifice de religieuses grecques, revêtues de toches blanches, jetées manu militari dans ses sépultures. En dépit de ce pinsomme, Julien est heureux aux Charmilles. Les leçons de choses se déroulent le plus souvent possible dans les alpages. Tout en imitant le long du chemin le chant majestueux des oiseaux à la belle saison, il peut s'adonner au ramassage de champignons, orchestrée par Sœur Sophie, infirmière et maîtresse de la nature. Les fleurs sauvages, les cyclamènes à profusion et tout ce que la forêt peut fournir de végétaux complètent sa cueillette. Certaines rejoindront son herbier. La préférée de Julien est la feuille que lui offre le sycomore. Il en a déjà repéré de beaux rondins dans l'atelier de Francis. Et l'hiver, me direz-vous ? L'hiver est arrivé avec une immense surprise pour Julien, avec sa blanche couverture de coton. En s'éveillant un beau matin, il ne voit plus les contours du paysage qui l'entoure. La neige a tout recouvert. Belle occasion d'organiser une nouvelle escapade. Voilà toute la maisonnée chaudement emmitouflée qui grimpe dans le car de Francis. « Mon nouveau chausson est à votre disposition pour transporter votre attirail, les enfants. En route pour le plateau de la Magne. » Les enfants s'ébrouent comme des fous. Julien, toué sur sa luge, se languit de rejoindre les plus hardis sur leur long ski de bois. Les années passent. Julien a bien grandi. Et voici le moment où les bonnes sœurs vont devoir statuer sur son avenir. Serez-vous étonné si je vous dis que Francis va leur être d'un grand secours? Cela fait quelques années qu'il y a réfléchi avec son épouse. Ils n'ont eu que 3 filles. Et croyez-vous qu'à cette époque, une fille peut succéder à son père dans le travail du bois? Notre brave tourneur était de surcroît orfèvre en la matière pour l'élaboration des pièces de la fameuse argenterie des Bauges, dont son incontournable poche, offerte à tous les jeunes mariés du canton. Il avait bien remarqué, au fil du temps, prodiguant ses conseils à Julien, l'assiduité avec laquelle il l'écoutait lors de la visite des Charmillons. Son habileté à manier l'érable, la manière dont il caressait la veine du bois, toutes ses aptitudes rassuraient Francis. Avec l'accord de la famille réunie, les filles accueillant en Julien le petit frère qui leur manquait, il prendrait le petit Soussonnel et c'est lui qui accomplirait la pérennité de son art. Ce qui nous lie est plus fort qu'une véritable filiation, aura dès lors coutume d'affirmer cet homme heureux.
Cette nouvelle a été écrite dans le cadre de la 12e édition du concours d'écriture Bonne Nouvelle des Bauges. Le recueil des textes est disponible à la vente au studio de Radio Alto.